Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec Enguerrand Renault ce soir, Clément David, Frédéric Simotel et Étienne Braque qui nous a rejoint. Salut Étienne.
Bonsoir François.
Et dans l'actu Étienne, il y a cette nouvelle baisse des prix en Chine pour certains iPhone. Promotion qui dure une semaine, qui intervient que trois mois après une autre promo en février, lors du nouvel an chinois. On voit qu'Apple fait des efforts pour faire baisser les prix.
Alors c'est pas la casse du siècle, hein. C'est pas moins 50%, non. Mais vous avez quand même des promotions qui sont valables actuellement en Chine, hein. L'équivalent de 300 euros pour l'iPhone 15 Pro Max qui dépasse les 1 500 euros, donc ça fait environ 20%. Vous avez l'iPhone 15 128 Go, 23% de rabais, il passe de l'équivalent de 760 euros à 590 euros, sachant qu'en France, pour rappel, son prix de lancement était de 969 euros, mais là aussi vous avez pas mal de promos, vous arrivez à le trouver aux alentours de 750 euros, alors que ce soit en France mais aussi en Chine, ça passe pas par l'intermédiaire directement du site Apple ou via les boutiques Apple, hein. C'est via certains sites internet, en l'occurrence là aujourd'hui en
Chine.
Parce
que chez Apple les prix sont verrouillés en général, oui, hein, voilà. Ça bouge pas, hein.
Ça passe en Chine par Tmall, hein, qui est un site qui fait partie du groupe Alibaba. Enjeu important, hein, puisque selon les chiffres de Counterpoint Research, au premier trimestre, eh bien, vous avez Huawei et Apple qui étaient au coude à coude avec environ 15%. Et c'est peut-être pas fini pour Huawei, hein, puisque vous avez la nouvelle sortie du Pura 70 qui a été très distinguée, sachant que là aussi, vous avez des acteurs chinois qui cassent les prix, hein, que ce soit Honor, Oppo ou encore Xiaomi. D'autant plus que la situation en Chine, elle est compliquée. On l'a vu avec pas mal d'entreprises, notamment la semaine dernière, Richemont, la maison mère de Cartier, où là les ventes étaient décevantes en Chine. Ils s'attendent à une confiance qui va mettre du temps avant de revenir. Et puis aussi avec une crise immobilière qui est très importante en Chine, sachant que 590 euros pour un Chinois, c'est quand même assez important, puisque vous avez un salaire moyen qui est sous les 1000 euros. Hein. Vous êtes à 800, 900 euros. Donc c'est quand même une somme assez importante par rapport au prix que l'on peut voir aujourd'hui en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis.
Merci beaucoup, Étienne, pour cette analyse. Messieurs, on le voit, Apple donc est en difficulté, à la fois en Chine, mais comme le disait Étienne, un peu partout, hein, même en France, on constate des promos, ce qui n'est jamais arrivé chez Apple. Apple a toujours eu une politique de prix, on a connu ça. Hein,
voilà, ils ont toujours verrouillé leur politique de distribution,
voilà.
Ils ont
fait très attention. Et jusqu'au prochain...
Ils ont intégré la distribution chez eux, ouais. et ils maîtrisaient les prix. Donc, c'est signe faible, pour reprendre ton expression, mais là, c'est assez fort quand même, ouais, comme signe.
C'est un signe faible fort. C'est
parce que ce que dit Étienne, quand même, 20-25% sur certains modèles, c'est assez fort.
Et c'est de la marge, beaucoup de marge en moins.
Et c'est de la marge, et il ne faut pas oublier que le marché chinois, c'est primordial pour Apple, hein. C'est le deuxième marché après les États-Unis, et ils font de la marge. Moi, dans cette histoire, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la part de marché de Huawei. Huawei qui est arrivé à faire jeu égal avec Apple en ayant 15% de part de marché. Il faut se souvenir que Huawei, qui était le premier vendeur de smartphones au monde, a été totalement déstabilisé quand le Sénat américain a obligé Google a lui enlevé son OS Android. Et donc, le roi était nu. C'était en 2021, il me semble, en moins de 3 ans, ils ont réussi à refaire un OS, ils ont réussi à refaire un magasin d'applications et à reprendre des parts de marché. C'est vraiment...
C'est en Chine, hein, qui cartonne toujours, parce que c'est vrai qu'en Chine, Google n'est pas présent sur les téléphones d'une manière générale, donc ils ont pu se remettre beaucoup plus rapidement en fait de ce ban de Google, hein, en Chine.
Arriver à faire un OS mobile,
c'est clair.
Ils ont fait en moins de 3 ans.
Oui, c'est clair, avec un magasin d'applications,
d'applications qui a attiré suffisamment de monde.
Et Étienne parlait du Pura 70, qui est donc le nouveau téléphone haut de gamme de Huawei. Il a été testé par les divers labos, c'est le meilleur téléphone du moment. C'est-à-dire que c'est même pas une chance ou un hasard, non. Huawei est toujours au top du top de la technologie.
Et il y a de très nombreux composants qui sont faits en Chine.
Pardon ?
Et il y a de très nombreux composants de ce téléphone qui sont faits en Chine.
Qui sont faits en Chine, notamment le processeur, on le sait, etc. Fred, c'est étonnant cette stratégie d'Apple de, voilà, de coller au basque, on va dire, du chinois au niveau tarif pour ne pas perdre de part de marché.
Bah, c'est important pour au niveau des actionnaires, hein, enfin au niveau du cours de bourse et tout ça, hein, de réussir à maintenir un niveau élevé, enfin de rester dans les clous de la part de marché, parce que là les actionnaires c'est ce qu'ils regardent chaque trimestre. Donc si ça baisse trop, comme pendant des années Tim Cook disait que la Chine c'était son grand réservoir de d'acheteurs potentiels, de croissance, qu'on voit quand même que le reste de l'Asie, l'Inde, ça mettra un peu de temps parce que le salaire moyen, alors là on descend, on n'est plus à 1 000 $, hein, on descend encore moins. Et puis je pense que quand même, malgré tout, il y a une concurrence. Enfin, en Chine, on voit des boutiques Huawei en fleurie un peu partout. Elles prennent le même look que les boutiques. Alors, ils se posent pas de questions. Hein, on prend exactement le même look que les boutiques Apple. Et puis je pense que les Chinois, il y a aussi cette histoire de nationalisme aussi. De à un moment se dire il y en a marre de ces Américains, et là je vais vers du Huawei, même si Apple reste quand même la marque. Voilà, on préférera rouler en Mercedes et avoir une, si on est chinois, on peut savoir rouler en Mercedes et avoir une Apple que rouler dans une BYD, même si elle a toutes les options, et avoir le Huawei dernier cri.
Et en plus l'iPhone est fabriqué en Chine, alors même si c'est pas un produit chinois, on va dire il est
il faut pas déstabiliser,
il est en Chine, il est
déstabiliser toute la partie logistique derrière, parce que derrière c'est Foxconn, tout ça, mais après autour c'est tous les fabricants de composants,
les sous-traitants
etc.
Ouais.
Faut pas sous-estimer ce qui s'est passé en Chine au moment où Huawei était sanctionné par les États-Unis, qui était une sanction un peu totale, parce que on parle des téléphones, la guerre que les États-Unis leur ont fait sur les réseaux 5G, en allant voir tous les pays européens en disant merci de dégager Huawei de tous les appels d'offres, ce que les Européens ont fait.
Bon. Réseau,
ce que la France a été obligée de faire,
bien sûr,
qu'elle ne voulait pas le.
On voulait pas le faire.
Mais pas partout. Il reste encore.
Plus
encore de réseau.
Ouais. Non, mais après il y a encore des équipements.
Il y a des équipements, mais tu vois 5G ils ont sauté partout. France, Angleterre, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le marché chinois est évidemment très contrôlé par le gouvernement. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, au moment où les Américains ont sanctionné Huawei, ils ont dit « Ok, on va séparer. Xiaomi, Oppo, Honor, ce que vous voulez, vous allez prendre le reste du monde. Maintenant, on va laisser la Chine à Huawei. » Donc en fait, il y a un truc qui est le marché intérieur chinois a été sécurisé pour Huawei pour leur permettre cette résilience est extraordinaire que tu évoquais pour faire en sorte que
rebondir.
Ils puissent avoir quelque chose le temps de rebondir. Le deuxième élément, c'est ce que Fred disait là, ils ont un mot pour ça qui s'appelle la Huawei Pride, tu vois, la fierté Huawei. Et en fait, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que mon frère jumeau qui était en Chine, qui a fait 10 ans en Chine dans le leader des drones mondial, me disait
DJI,
c'était impossible. J'en parlais avec lui avant le plateau, il me disait on ne pouvait pas recruter un ingénieur Huawei parce que justement, il y avait un côté, maintenant que les Américains nous ont sanctionné, les ingénieurs Huawei, on est en mission, il n'y a pas seulement eux, mais il y a une pression sociale. Quand tu quittes Huawei, tu laisses un peu tomber le navire alors que le pays a besoin de toi. D'accord. Et c'est un truc où...
Oui, c'est un patriotisme exacerbé.
Mais vraiment, et avec une pression sociale. C'est pas seulement les gens le ressentent, c'est aussi... Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, les téléphones...
Oui, tu peux te prendre une petite remarque à un dîner parce que t'as quitté Huawei. Quoi.
Complètement, ils sont en mission. Et le truc, c'est que il y a un côté roman national que nous, on a un peu oublié en Europe, mais qui est très utilisé dans certains pays, la Turquie, la Chine, etc. Et le truc, c'est là, les téléphones qui sont lancés par Huawei bénéficient d'une couverture gratuite dans les journaux d'État, dans les médias, etc., qu'on ne peut pas imaginer, qui est colossal. Oui, et donc, l'interventionnisme gouvernemental sur la fierté autour de Huawei est clairement un des éléments clés de la réussite. Et c'est pas juste une petite musique comme ça, c'est un vrai truc social.
Et pourtant, Tim Cook, on le voit, hein, ne tarit pas d'éloges sur la Chine, il va souvent, rencontre les dirigeants chinois, va dans les Apple Store, se fait prendre en photo avec les clients, etc. Il est obligé lui-même de...
Mais quand tu vois le découpling dont on parlait, à un moment, Apple sera forcément la victime collatérale.
Ouais, mais Apple essaie de rester en dehors de ça.
Tu peux le faire comme tu veux, tu vois. Mais à un moment, je veux dire, on va te dire, c'est les Chinois contre les Américains. Apple, ils bénéficient d'une image incroyable, notamment auprès des classes plutôt très aisées en Chine, etc. N'empêche qu'à un moment, ça sera un Américain et qu'ils vont se le traîner de plus en plus au fur et à mesure que le conflit va s'intensifier.
Mais il y a un autre élément un peu plus macroéconomique, c'est quand même la crise en Chine, la crise de l'économie en Chine. Hein. Je crois que c'est la plus faible croissance aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est autour de 5% de la Chine. Du coup, les ménages ont réduit leurs dépenses entre 7 et 10%. C'est comme partout. Hein, est-ce qu'il faut changer de téléphone tout de suite on réduit ses dépenses.
Etienne, il disait le marché de l'immobilier. Comme ça. Quand on sait ce que c'est le marché de l'immobilier en Chine, c'est toute l'économie qui repose sur le marché immobilier.
Et du coup, Apple, qu'est-ce qu'ils font pour continuer à vendre? Ils sont obligés de baisser les prix parce qu'ils voient que les gens n'ont plus les moyens non plus de débourser.
Ce que dit Clément, c'est intéressant parce que là, aujourd'hui, c'est un problème de prix.
Pour une fois.
Non, mais c'est un problème. C'est pas possible entre la mouche et ça.
Ça fait plaisir.
Allez,
plaisir de vous. Mais ça risque de devenir un problème effectivement de réflexe nationaliste. Ouais. Qu'on va dire, choisissez Huawei plutôt que Apple. Et là, même si tu baisses les prix, tu n'arriveras pas à lutter contre ça.
Non, mais ça va être intéressant de voir justement si les prix baissent et qu'ils continuent à acheter du Apple. Alors, est-ce que c'est vraiment juste un phénomène économique, passager, une croissance moins forte, un pouvoir d'achat qui baisse, ou s'il y a vraiment ce phénomène. Et puis encore une fois, Huawei communique beaucoup sur leurs innovations, les appareils photo sont meilleurs, ils savent un peu mieux aussi comprendre peut-être d'un point de vue marketing le consommateur chinois aussi, qu'on attire différemment qu'un consommateur. Vous avez vu la grosse erreur de pub pour les iPads d'Apple qui a fait son histoire. Il y a peut-être une communication qui doit changer aussi au niveau d'Apple en Chine.
Chose très intéressante, et on voit qu'Apple est au garde-à-vous devant la Chine. Typiquement, je ne sais pas si vous vous souvenez, en avril, sous injonction du gouvernement chinois, Apple a retiré WhatsApp et Threads de l'App Store en Chine. Et il n'y a pas de discussion. Il pourrait très bien dire, mais attendez, non, on est américain, on essaie malgré tout de conserver des applications importantes, etc. La Chine a dit, non, vous les enlevez, ils les ont enlevés. Donc il y a le pragmatisme commercial aussi qui est derrière. Mange un peu son chapeau sujets.
Pragmatisme commercial, tu vois très bien avec Elon Musk le pragmatisme culturel. Quoi. Il y a le côté commercial.
Là, c'est plus que culturel quand même. Oui, enfin, c'est sociétal.
Ça fait partie.
Et puis la dépendance est totale. Ouais. Si la Chine. Imagine que la Chine fasse l'inverse.
Voilà, moi j'ai plein d'exemples personnels où tu vois que la Chine, ils réfléchissent pas comme. Si tu commences à réfléchir comme un occidental pour négocier avec les Chinois,
tu n'y arrives
perdu.
Pas.
Perdu.
Ouais, c'est clair. Cocorico. Avec Pascal, quand même. Attendez, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, de la Chine, etc. On y reviendra d'ailleurs dans la Chine dans quelques instants. Mais Pascal, qui est une start-up française qu'on reçoit de temps en temps dans Tech & Co, belle start-up dédiée au quantique.
Co-fondée avec Alain Spé.
Très bien. Eh bien, a signé un joli deal là avec une boîte qui est au Moyen-Orient, je crois.
Ouais, Saudi Aramco, c'est le plus grand mondial.
Pour vendre son plus gros ordinateur quantique.
Ça a longtemps été la plus grosse capitalisation mondiale devant. Et puis, ils ont été dépassés par les Apple, Microsoft. Et ils doivent être troisième, d'ailleurs, aujourd'hui.
Et quand on vous dit que Pascal est la référence européenne, on en a encore la preuve, là. Puisque cette boîte-là a décidé d'acheter l'ordinateur quantique de Pascal. Clément, c'est plutôt une bonne nouvelle, non?
C'est excellent. Déjà, félicitations pour faire un sujet sur Pascal un lundi de Pentecôte. Voilà, c'est...
Pentecôte. Ah ouais, là, voilà. Celle-là, je la note. Franchement, ça fait 3 points pour... entre la douche, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre là?
Non, celle-là,
la question
bien,
intéressante.
Bien.
C'est bien.
Je suis assez content.
Oui, c'est vrai.
Premier truc. Deuxième truc, en fait, les gens ne réalisent pas ce que c'est Aramco. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'une boîte qui représente en fait les investissements pétroliers et énergétiques de l'Arabie Saoudite, investit là-dedans? Mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en fait, tout passe par Aramco. Quand tu investis en Arabie Saoudite, tu ne fais pas d'entreprise locale à toi. Tu deals avec un peu comme la Chine, tu deals avec une entreprise sur place qui prend 51% et ça. Je vais vous donner un exemple. Google n'est pas présent en Arabie Saoudite. Google a un revendeur en Arabie Saoudite qui est possédé par une entreprise, c'est une joint venture avec une entreprise qui s'appelle Cognite, qui est une entreprise dans la tech. Qui possède Cognite? Aramco. C'est un exemple.
Mais c'est-à-dire que... avec Winmat. Winmat, c'est eux qui ont investi quelques dizaines de millions.
Donc en fait, quand on entend...
Ils sont partout, quoi.
En fait, quand on entend Aramco, il faut voir le gouvernement saoudien...
Et la puissance particulière.
Après, Aramco aurait pu aller voir des Américains.
C'est juste le premier...
C'était pour qu'on se rende compte de la puissance,
en fait. Exactement. Et ce que Aramco vient faire ensuite, ce qui est génial, c'est que En France, on n'a plus rien. Il nous reste le luxe et la grande distribution. Bon, il y a un truc.
Oh, t'es vache.
Non, mais dans les.
Non, on a quand même. Non,
alors justement, j'y arrive. Ah oui. Le dernier truc.
Non, parce que là, tu nous balances ça comme ça.
Il me reste plus grand chose. Mais en fait, ce que les gens te disent quand tu parles de la tech, la gastronomie, voilà. Quand tu parles de la tech, les gens te disent, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il nous reste des ingénieurs de très très haut niveau. Et le lieu commun qui est vrai, c'est on a du mal généralement à industrialiser, à commercialiser la puissance intellectuelle des découvertes de ces ingénieurs. Et il y a deux exemples qui viennent contredire ça, qui sont des exemples de pointe, l'intelligence artificielle et le quantique. Et tu vois, par exemple, dans le plan de... On a des gens de très très grands talents. Il y a une personne, par exemple, qui s'appelle Maud Vinet, qui était une personne du CEA qui est intervenue pour le plan France 2030 de Macron, pour parler du quantique, etc. Il y a des gens comme ça, très très forts. C'est cool de savoir que sur cette ingénierie de très 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 haute technologie de pointe, on est capable non seulement d'avoir des gens qui font de la R&D et qui sont après recrutés dans toutes les entreprises du monde, mais on est aussi capable de vendre des choses. Et ça, c'est quand même la très bonne nouvelle. Parce que Pascal, ils ont une usine en France. Ouais. Tu vois, c'est quand même...
Et pour rappel, juste un petit rappel pour dire à quoi peut servir le quantique. Enfin, il y a trois principaux domaines. Il y a le chiffrement de données. Donc, ça peut servir dans les... Parce que ce n'est pas fait pour remplacer l'informatique traditionnelle. Non, hein. Ça vient en complément. Ça vient... Enfin, voilà. Mais c'était juste pour le dire pour nos auditeurs, téléspectateurs. Premier, le chiffrement de données dans ce réseau télécom. Le deuxième, c'est tout ce qui peut être simulation. Hein, la simulation quantique. Je simule des réactions chimiques, tout un tas de choses. Et le troisième, c'est l'optimisation combinatoire. C'est trouver, tu as une flotte de véhicules de livraison, trouver le meilleur trajet.
Le meilleur trajet pour que.
Avec Thalès, ils ont travaillé sur les.
Oui, la santé, tout ce qui est gémonumérique.
C'est dans la partie simulation informatique. Et puis, tu vois, par exemple, avec Thalès, ils ont fait un modèle pour l'optimisation des trajectoires des satellites, justement, avec tout ce qui se passe. Donc voilà, donc c'est un peu les trois domaines.
En fait, c'est utiliser les lois mathématiques de l'infiniment petit qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on connaît à notre échelle. Pour résoudre des problèmes qui aujourd'hui sont insolubles. En gros, c'est ça. Et par ailleurs, Cocorico Thalès, entre la joint venture avec Google chez Sens, le fait qu'il soit avec Pascal, etc., tu vois, on parlait d'Atos dans les news, c'est triste de voir des fleurons comme ça de la technologie française qui vont pas bien. Thalès arrive, qui est quand même une des boîtes historiques où les ingénieurs vont de très haut niveau, etc., en France, c'est agréable de voir qu'ils sont bien positionnés sur des sujets de pointe.
Et on parle de qubit, hein. Qubit, c'est un petit peu l'échelle.
C'est l'unité de.
L'unité de puissance, en fait.
L'unité de puissance, arrivé à 200 qubits, et ils ont un objectif à 10 000, mais l'année dernière, à Vivatech, il y avait Alain Aspect. Alors, Alain Aspect, prix Nobel, hein, Alain Aspect, il est conseil et ingénieur d'à peu près toutes les start-up françaises, ouais. C'est Bob, Pascal, celle de Maud Vinet qui est à Grenoble. Il y a beaucoup de champs d'expérimentation en France et beaucoup de sociétés de pointe. Là, on arrive, et Alain Aspect disait l'année dernière, l'ordinateur quantique qu'on attend depuis une éternité, ça va arriver très très vite. La difficulté, c'est que sortir du dans le labo, on est très fort, et la difficulté, c'est de sortir du labo. Là, c'est le premier ordinateur quantique vendu en dehors d'un... Ils en ont vendu en France, mais à des organismes de recherche, en Allemagne aussi. Là, c'est vendu à une entreprise, et pas n'importe laquelle, on l'a dit, à Aramco. Donc, c'est un vrai pas en avant.
Ouais, c'est cool. C'est
un vrai pas en avant. Et je pense que les Saoudiens aiment bien comme ça diviser les risques et ne veulent pas mettre tout le monde, enfin tous les œufs dans le même panier, et veulent éviter d'être entre les mains des Américains.
Après, on est en train de voir un peu comme dans le domaine que tout ça est en train de sortir de l'Europe. Alors tant mieux pour Pascal, hein, qui signe des contrats avec plein de monde. Mais encore une fois, on a quelque chose qui va être un gros capitaux saoudien, comme on a un Mistral à gros capitaux américains. Enfin voilà, c'est encore de la valeur qui...
Oui, mais c'est des boîtes qui restent françaises, encore.
On ne connaît pas le détail du deal.
Bon, on verra. Dans l'actu, il y a aussi ce Chinois. On va revenir en Chine avec Xpeng. Est-ce que vous connaissez la marque Xpeng qui est en train de s'implanter un peu partout en Europe et notamment en France? Ils ont fait une conférence de presse il y a quelques jours à peine, Port de Versailles, en grande pompe, pour présenter leur nouveau véhicule. Un petit peu comme Tesla, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un véhicule électrique, c'est avant tout du soft. Et finalement, après, le reste, c'est presque secondaire, quoi. Donc, ce sont des voitures avec énormément d'intelligence artificielle, énormément de fonctionnalités, à la fois de divertissement, mais aussi d'autoconduite, etc., etc. C'est une boîte qui a beaucoup d'ambition, qui s'apprête à sortir des modèles qui sont pas donnés d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il y a les X-Peng, les premiers modèles qui sont entre 50 et 60 000 euros. Mais pour ce prix-là, ben, on en a pour notre argent, visiblement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont annoncé aujourd'hui travailler sur une voiture volante. Alors, la voiture volante, c'est un peu le fantasme depuis des dizaines et des dizaines d'années. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, je voyais Fantomas et je me disais, waouh, la classe, Louis de Funès qui décolle comme ça. Enfin non, c'est Fantomas qui décollait avec une voiture volante. Finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. On ne sait même pas si on va avoir une expérimentation pendant les JO avec Volocopter. Alors que pendant des mois et des mois, on nous avait certifié que c'était jouable. Là, on ne sait pas où on va.
On posera la question. Pour la petite histoire, la voiture, si vous nous regardez en télé, on voit cette voiture hein, qui existe vraiment. Hein. On l'a vu, elle était au CES.
Enfin, c'est plutôt un camion, hein, d'après ce que j'ai compris.
Non, mais c'est celle qu'on voit la vidéo qui montre. L'image, c'est peut-être le concept car. Alors, si vous nous écoutez en radio, voilà, c'est une voiture un peu voiture de course, un peu. Enfin, de voiture sportive, on va dire. Une urbaine sportive, une sorte de alpine un peu. Mais de quelle sorte des ailes et qui fait ensuite hélicoptère. Et moi, j'ai discuté, parce que la voiture, elle existait. Et j'ai discuté avec un ingénieur de X-Pine au CES. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, parce que je l'avais rapporté ce qu'on s'était dit. J'ai dit, mais c'est quand même bête, on voit la voiture est là, pourquoi les films.
Elles volent pas.
Alors on la voit juste, la vraie photo qu'on voit, c'est juste la voiture qui monte et qui descend. Et par contre, tout le reste, c'est de la photo de l'image de synthèse, etc. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas fait des essais, tout ça? Il dit, bah, le problème, c'est qu'une fois qu'elle s'est élevée à 10 mètres de haut, on a bouffé toute la batterie, donc elle doit se reposer.
Ouais. Mais donc une autonomie assez limitée, somme toute. Voilà.
Donc là, on est quand même loin. Non, mais c'est pour dire qu'on est encore un peu loin.
Ce qui est intéressant, c'est que.
Mais c'est des projets.
Il y a un autre concept qui a été présenté aujourd'hui. C'est un petit. Comme un petit van dans lequel il y a un petit drone qui sort. Ben voilà, ça c'est les images que je voulais vous montrer. C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui en fait. Vous avez le van et là vous avez après ce petit drone qui sort du van et qui permet un décollage. Et c'est ça qui devrait sortir en 2026. C'est un autre concept, c'est carrément dingue. Et encore une fois, alors bon, on se dit 2026, c'est demain, quoi.
Ah, c'est demain, enfin,
je veux dire. Ouais, mais alors c'est pour ça que ça sera pas demain.
Ouais.
C'est-à-dire que il y a un truc. Déjà,
moi, je me méfie quand même de toutes ces boîtes qui vont très très vite.
En fait, il y a une.
Tu sais qu'ils ouvrent les précommandes dans quelques mois. Hein.
Ouais, mais il y a une telle différence entre on est capable de vous sortir 50 modèles qui font à peu près un truc et ça devient un usage dans la vie quotidienne des gens. Je veux dire, c'est marrant ce que tu dis. Ça me rappelle, il y avait une pub IBM dans les années 2000 où le mec sortait de sa bagnole en disant « Où sont les voitures volantes ?» On nous avait dit que dans l'an 2000, il y aurait des voitures volantes, etc. Et le truc, c'est... En plus, spécifiquement la Chine, ça fait 10 ans, il y avait une boîte qui s'appelait Yihang qui vendait déjà que du vent depuis 10 ans sur le serpent de mer qui était les voitures volantes. Là, t'as des vrais trucs, mais un, on est vraiment sur du concept car quand même. De deux, quand tu vois déjà sur les voitures autonomes, à quel point, d'un point de vue, d'un point de vue légal, c'est l'enfer. Quand tu vois pour les voitures électriques à quel point on n'est toujours pas équipé en termes d'installation pour généraliser ça, je pense que les voitures.
Ouais, mais n'oublie pas que c'est en Chine. En Chine, c'est différent, les réglementations sont différentes. Parce que
oui,
tu
mais
sais
ils n'ont toujours pas de voitures autonomes.
Tout à fait.
Alors qu'ils ont la technologie.
Il y a un peu d'autonomie sur les voitures, mais là, ce qu'ils disent, c'est que, en fait, XPeng est prêt à faire certifier par les autorités chinoises cette voiture volante pour qu'elle puisse voler. Après, ça ne veut pas dire qu'elle pourra voler en dehors de la Chine, parce qu'il faudra qu'elle soit recertifiée. C'est ça qui est intéressant. Mais
non, et puis obtenir.
C'est pas pour les urbains. Ils ont dit certifié en dehors des paysages. Ouais. Qui est prêt à mettre 130 000 euros ou 200 000 euros pour voler, comme on a vu là, tu vois, pour la montagne, etc. On va être sur des cas de figure très spécifiques. En gros, t'as un mini hélicoptère, c'est cool. Ça va pas changer notre vie tout de suite.
Ça serait cool.
Ok, je sens que t'as envie. Pardon, je vais arrêter de.
Attends, un petit van comme ça, là, tu sors ton petit hélico, t'es dans les embouteillages, tu te gares sur le parking.
Tu pars en Corse.
Je suis pas sûr que je puisse partir de.
La batterie, ça va être compliqué.
Ça va être un peu compliqué.
Ça va être compliqué.
Risque d'être un peu en retard. Bon, on verra bien. Merci beaucoup à tous les trois.
Avec plaisir.
Merci Clément. Clément Paddock. Clément David, président de Paddock. Pourquoi je dis Clément Paddock? Parce que c'est ton Twitter, à chaque fois je me fais avoir.
T'as perdu en autonomie,
c'est
compte...
Voilà, c'est ça. Je suis à court de batterie. Merci Enguerrand Renault, donc consultant chez Imagette et ancien journaliste au Figaro. Et merci à Fred Simotel, qu'on retrouve à Vivatech.
On se retrouve à Vivatech.
Voilà.